Voilà, ça c'est notre jingle pour essayer d'épater. Pour essayer d'épater Fanny et Sylvain qui sont parmi nous. Bienvenue à vous deux.
Merci.
Vous êtes tous les deux co-auteurs, autrices-auteurs d'un livre qui va nous occuper cette prochaine demi-heure à Libre Radio. Ça s'appelle Génie du Code. Et puis, alors, Génie du Code, qu'est-ce que ça désigne? Eh bien, là, on pourrait dire Python, Django, CSS, HTML, enfin des mots comme ça que les gens ne comprendront pas. Eh bien, on les invite à justement se plonger dans ce livre pour découvrir finalement ce code et toutes ces choses qui se cachent derrière les sites internet. Parce qu'en fait, ce dont vous parlez, c'est, pourrait-on dire, la moelle épinière des sites internet. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, exactement.
C'est Sylvain qui répond.
C'est... En fait, le livre commence avec une introduction à HTML et CSS, qui sont vraiment les langages qui sont utilisés par absolument tous les sites web qu'on va visiter, en fait. Ouais. Donc rien que ces deux langages, ça permet déjà de faire une page web comme tous les sites qui existent déjà sur Internet.
Très bien. Alors, je propose que vous commenciez par vous présenter justement dans ce que vous faites au sein des génies du code. Et puis ensuite, on parlera à proprement parler du livre et du HTML, du code, de toutes ces choses-là. Alors Fanny, voudrais-tu nous dire qui es-tu, Fanny? Bonjour.
Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Fanny Vaucher, je suis illustratrice et autrice de BD. Et j'étais déjà venue à Libre Radio parler de La Bûche, le fanzine collectif non mixte que j'ai créé avec des amis.
Absolument.
Voilà.
Ouais. Bienvenue.
Merci.
Et Sylvain?
Donc, moi, j'appelle Sylvain Fancozer et je suis développeur web depuis bientôt 8 ans maintenant dans une agence web située à Lausanne.
Très bien. Et alors voilà, qu'est-ce qui vous a pris de vous allier pour faire ce livre-là? Comment s'est produit cette rencontre-là entre justement un ingénieur système, d'une certaine manière, on peut dire ça? C'est un peu la fonction également?
Alors, je fais un petit peu de système, mais ce n'est pas mon occupation principale, c'est plutôt du web. Donc, système sera plutôt administration de serveur, alors que moi, c'est vraiment écrire du code.
Voilà, ok. Alors, un codeur et puis une dessinatrice.
En fait, on a déjà pas mal bossé ensemble avant ce livre dans le cadre d'une association. Association antispéciste, et on préparait les sites web ensemble. Du coup, on avait un bon feeling, ça marchait bien. Et un jour, Sylvain m'a avoué qu'il avait un projet depuis longtemps qui aurait été d'écrire un guide, d'écrire quelque chose qui n'existe pas encore et qui serait vraiment utile sur la programmation et quelque chose de ludique, d'illustré. Et voilà, comme j'avais beaucoup trop de temps, je me suis dit, alors pourquoi pas. Non, c'est pas vrai, mais c'était très différent de tout ce que j'avais fait jusqu'alors. Et je me suis dit, chouette, c'est un projet qui me parle.
Oui, alors parce qu'effectivement, on peut dire que tout à l'heure, j'ai voulu un peu me la péter, puis faire HTML, CSS, dire les mots compliqués. Mais ce livre postule que l'on puisse commencer à zéro. C'est-à-dire qu'une personne qui, a priori, n'y connaît rien, peut se plonger dans ce livre-là justement pour arriver en douceur à apprendre ce que ça signifie que lorsque l'on entend le mot code, lorsque l'on entend ces acronymes HTML et CSS.
Oui, alors c'était vraiment le but de proposer une approche qui convienne au maximum de personnes qui connaissent rien du tout là-dedans. On explique par exemple même comment faire un clic droit dedans, parce qu'il y a des personnes qui sont sur Mac, par exemple, qui ne savent pas comment faire un clic droit. J'ai participé à des ateliers de programmation pour des personnes qui sont totalement débutantes, et c'est pendant ces ateliers que j'ai pu réaliser en fait la quantité de tous ces trucs qu'on connaît mais qu'on oublie que les autres personnes ne connaissent pas forcément.
Ouais, absolument. Alors, on va d'ores et déjà dire que les personnes autour de nous peuvent à tout moment, évidemment, prendre un micro et poser une question. Avant que les questions ne surgissent, j'aimerais, parce qu'il faut quand même bien décrire, le livre pèse quand même 500 grammes.
630.
Achetez pas loin quand même. Hein.
Il est gros.
Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il a 300 pages. C'est un gros, gros travail. Ça a pris combien de temps de faire ça?
Ça a pris, on y a consacré 3 mois à plein temps, parce qu'on a eu la chance que Sylvain pouvait prendre des mois sabbatiques dans son job. Et puis, du coup, on a réservé cet espace pour bosser que là-dessus. Et ensuite, on a fini un peu sur nos temps de loisirs. Donc, en tout, ça a pris une année. Enfin, on dit souvent qu'un livre, c'est entre une année et 2 ans, selon comment on le fait.
Parce qu'il est effectivement extrêmement documenté et puis du coup il est superbement illustré, et ça c'est très pédagogique, c'est vraiment bien vu en tout cas. Une dernière question avant que les autres questions ne surgissent, mais donc ça s'appelle Génie du code, c'est paru aux éditions.
Aux éditions pas, parce qu'on l'a fait en auto-édition. On a vraiment.
En plus, c'est auto-édité. Oui. Bravo, bravo. Dis donc. La première question que j'aurais voulu vous poser par rapport à ce livre-là, c'est comment est-ce qu'on choisit ce qu'on y met et ce qu'on n'y met pas. Parce qu'il est extrêmement gros, donc il y a plein de choses, mais j'imagine qu'il y a encore plein d'autres choses qui n'y sont pas et que vous auriez voulu mettre, j'imagine. Sylvain.
Ça a été vraiment la grosse difficulté pendant toute la partie de la rédaction, c'était de se dire « Ah, il y a ce truc-là que j'aimerais bien mettre pour que la personne puisse vraiment bien comprendre et aller un peu plus en profondeur dans le sujet ». Mais en même temps, il y a finalement plein de trucs qui ont été coupés au montage parce que je savais que c'était trop. Et vraiment, le but de ce livre, c'était d'avoir un fil rouge qui est la réalisation de ce premier site web, de cette première page web, un truc qui soit vraiment fonctionnel du début à la fin. Et je me suis concentré là-dessus, en fait, de comment réussir à arriver jusque-là. Et puis après, à la fin de chaque chapitre, il y a à chaque fois une section qui est pour aller plus loin, qui permet d'aller chercher plus d'informations, qui donne des ressources pour continuer l'apprentissage.
Oui, puis aussi, ce que tu avais dit, c'est que tu voulais surtout pas faire les guides que tu avais eu toi et que tu n'aimes pas, qui sont vraiment énormes, rébarbatifs, qui vont hyper loin dans les informations et qui sont finalement assez indigestes si on n'est pas déjà à fond dans le truc.
Et d'où l'idée également d'avoir ces illustrations qui sont entre la pédagogie et l'humour et qui permettent... De continuer à lire.
Voilà, en fait, on a vraiment voulu que ce soit une partie intégrale du livre, qu'il y ait un cadre narratif que je pose en BD et qu'ensuite on avance dans l'apprentissage avec les personnages. Enfin, il y a quelque chose de plus incarné en fait, qu'on n'est pas seul avec les chapitres, on avance, il y a des moments où il y a un peu des pauses avec des dessins et tout ça.
Ouais. On va revenir aussi sur les dessins parce que déjà celui de la couverture est extrêmement drôle et il invite non seulement à la lecture mais au voyage puisqu'on y voit une famille qui est. Alors il y a l'ordi ouvert, il y a les vagues, on surfe sur. Il y a du surf là-dessus quelque part aussi.
Oui, il y a le thème de la mer qui est un peu présent tout le long.
Ouais. Voilà, en tout cas, il y a l'écume, il y a plein de choses sur ces dessins, on va revenir là-dessus. Où est-ce qu'on le trouve ce livre, d'ores et déjà ? Alors, on a entendu tout à l'heure Fahrenheit 451. Là, on fait le petit clin d'œil à Pierre, notre ami, hein, 24 rue Voltaire, la librairie anarchiste Fahrenheit 451. Mais également dans d'autres lieux, librairie du boulevard, genre ?
Non, en fait, on a vraiment seulement commencé à approcher des libraires. Donc, pour l'instant, on peut le commander soit directement sur le site génieducode.com. Et puis, petit à petit, on va aller le proposer à des libraires locaux.
Ok. Et donc, vous êtes de Lausanne, donc certainement à Basta, tout ça.
Oui, il est à Basta.
Il est déjà à Basta. Librairie autogérée, l'équivalent de la librairie du boulevard, pourrait-on dire, à Lausanne.
Oui, une coopérative.
Voilà. Une petite question d'ores et déjà.
Oui, moi je voulais poser une question à Fanny. Donc toi, on est bien d'accord que avant de commencer ce projet, tu n'avais jamais entendu parler de codage, ni de HTML, ni de CSS, ou si quand même un petit peu, c'était des choses auxquelles tu étais un peu habituée.
Non, vraiment très peu, parce que même en travaillant avec Sylvain, il n'était pas du style à balancer tout son langage comme ça. Donc c'était assez mystérieux. Puis maintenant, ça l'est moins, mais je dois quand même dire que parce que ça a été aussi beaucoup de travail d'illustration, je n'ai pas pu faire moi-même tous les chapitres. J'en ai fait certains parce qu'il fallait de toute façon qu'il y ait une première personne qui teste, mais pas tous.
Et du coup, dans le processus de création de tes illustrations, est-ce que le fait de moins bien connaître ton sujet ou peu connaître le sujet, c'est un truc qui est favorable à l'esprit créatif ou plutôt défavorable? Toi, tu l'as senti comment ce truc-là?
Moi, je trouve ça plutôt stimulant parce que c'est chouette, c'est un peu comme un nouveau matériau dans lequel faire ses dents, tu vois. C'était pas recycler des petits gags que j'avais déjà faits ou des persos que je connaissais, c'était vraiment tout un terrain à explorer. C'était aussi vraiment le challenge de comment rendre un univers drôle et narratif avec un sujet aussi à la base abstrait et ardu, tu vois.
Super, merci.
Mais alors voilà, on va devoir entrer dans ces acronymes. HTML, CSS, Quid. Sylvain, voudrais-tu nous éclairer un petit peu?
Donc HTML et CSS, c'est, comme je disais avant, c'est vraiment la base des sites web. HTML, ça va définir tout ce qui est la structure, le contenu, vraiment la base du contenu en fait sur une page web. Et après, ce qui fait que les sites web qu'on voit, ils sont comme ça jolis, avec des couleurs, avec de la mise en page, avec des polices différentes. Ça, c'est le rôle du CSS. Donc, c'est de venir appliquer en fait, une couche de présentation par-dessus cette première couche de structure et de contenu. Donc ça, c'est vraiment deux langages, entre guillemets. Mais HTML, c'est un langage de balisage. Donc, ça ne permet pas de faire vraiment des sites dynamiques. Ça permet juste de faire des pages qui sont statiques.
Si tu réponds aux questions pendant que je les écris, je suis vraiment statique, dynamique, tu vois, je n'ai pas fini dynamique. Oui, certes, absolument. Alors, peut-on dire que justement le HTML est ce qui dessine les contours du site et puis peut-être que la profondeur serait le CSS ? Est-ce que ça correspond un petit peu à la réalité, ce que je dis là ?
Alors, HTML, ce serait plus la façon dont l'information est disponible sur la page. Uh-huh. Et puis, CSS, c'est comment elle est présentée. En fait, on pourrait, si on veut comparer ça avec une maison, par exemple, on pourrait dire, le HTML, c'est comment la maison est construite. Puis après, le CSS, ce serait, je sais pas, la peinture qu'on va mettre par-dessus, les rideaux, etc.
Peut-on dire que ces deux langages sont indissolublement liés ? On a besoin des deux pour faire un site ou est-ce qu'on pourrait faire l'économie d'un des deux ?
On peut totalement faire l'économie d'un des deux. Par exemple, dans le livre, je commence par expliquer ce que c'est le HTML, comment ça marche, et créer une première page web seulement avec du HTML et pas de CSS.
Oui.
Mais le résultat, forcément, c'est du texte noir sur fond blanc. Il n'y a aucune mise en page, en fait.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'on va mettre du CSS par-dessus.
Ok. Et dis-moi, on voit maintenant beaucoup des sites extrêmement interactifs sur lesquels on peut aller vraiment en profondeur en cliquant sur un hyperlien qui va nous mener ailleurs. Cet ailleurs va être brillant ou en tout cas va donner une perspective même, il va y avoir quelque chose de dynamique. Qu'est-ce qui permet de faire d'arriver à ce résultat-là ? Est-ce que c'est justement la combinaison des deux ou est-ce que c'est encore autre chose ?
Alors les hyperliens, c'est aussi un truc qui est à la base du web en fait. C'est comment on va faire le web en fait, c'est des liens entre des ressources, donc entre des pages web. Le concept d'hyperlien, en fait, c'est aussi central au web. C'est ce qui permet de lier des sites entre eux ou des pages entre elles. C'est ça à la base.
Très bien, très bien. J'étais en train de regarder en même temps, parce que je le découvre, je consulte le livre. Je suis tout de suite allé voir à la fin, justement pour la question suivante. Là, il y a des remerciements. Lorsque l'on s'attelle à un tel travail, on est là, c'est un duo, mais en ce qui concerne toute la recherche technique, comment est-ce qu'on va débusquer l'information et comment est-ce qu'on va la rendre accessible à toutes et à tous ? Alors, j'ai bien compris qu'il y avait les illustrations qui étaient là pour inviter à ne pas décrocher, mais avant cela, il faut quand même avoir il faut dominer la question technique. Et alors ça, comment on le fait ? On le fait dans le cadre d'une école, on le fait avec justement d'autres ingénieurs. Comment est-ce que
tu domines la question technique ?
Ah ben non mais parce que c'est une somme de savoir quand même assez impressionnante. Il faut savoir ça, il faut savoir ça. Le HTML par exemple, tu codes quand on code, on sait balise HR, fermer la balise, bidule, enfin tout ça tu le sais. Tu peux écrire en code.
Ouais, alors c'est comme apprendre une langue en fait. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain.
Et voilà.
Personnellement, pour l'apprentissage de la programmation, ça a été un truc qui a été très difficile et très frustrant au début parce que j'avais pas trouvé justement de livre comme Génie du code. En fait, ce que je voulais faire, c'était une méthode pour apprendre à programmer. Ce que je trouvais, c'était surtout des livres qui étaient vraiment très gros et puis assez complexes vraiment à comprendre quand on n'y connaissait rien. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études là-dedans. Et puis là, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le domaine du développement. Du coup, maintenant, j'ai un bon bagage technique. Mais la plupart presque toute la matière que je connais au niveau du développement web, je l'ai appris en autodidacte.
Mais après, dans la façon dont tu as structuré l'enseignement, c'est quand même vachement tributaire des ateliers que tu as fait de Django Girls, de l'expérience que tu avais.
Voilà, donc il y a un truc de terrain quand même, c'est-à-dire qu'il est testé, il est le fruit d'ateliers, donc de choses extrêmement concrètes.
Oui, alors là, je mentionnais seulement vraiment le côté connaissance technique.
Oui.
Mais après, au niveau de la pédagogie, j'ai participé à des ateliers de programmation qui sont... le premier, c'est Django Girls. C'est des ateliers de programmation qui sont destinés aux femmes. Avec une grande partie de personnes, en général, qui sont vraiment complètement débutantes. Donc ça donne déjà une bonne vision en fait des points qui sont problématiques dans l'apprentissage de la programmation. Et puis il y a Power Coders qui est aussi une initiative pour les réfugiés, en fait, pour leur apprendre la programmation.
D'accord. Et puis de nouveau, en reprenant le livre en main, on observe à la fin quelque chose sur lequel j'allais t'interroger et qui est extrêmement important dans ce cadre-là, c'est le lexique. Parce que c'est vrai qu'il y a tout un champ sémantique qui sort de l'habituel et qui souvent désarçonne. Hein, déjà les mots, c'est pour ça qu'on a commencé par HTML, CSS. Souvent, ça donne des fois, ça fait des fois peur et des fois c'est un petit peu répulsif. Et alors là, du coup, ça c'était important que vous le mettiez. Vous avez vraiment tout de suite pensé à dire, on va immédiatement mettre un truc, voilà, un lexique à la fin. Ça commence par adresse IP et effectivement, ça c'est un truc qui peut immédiatement repousser des gens.
Ça a été aussi le fruit en fait des ateliers de test qu'on a fait, parce qu'il y a eu une première version du livre, après on a fait tester le livre à une vingtaine de personnes, et puis on a des personnes qui pouvaient directement mettre du feedback dans le texte et puis dire, ah ben ce terme là par exemple j'ai oublié ce que c'était entre deux chapitres, ou ce terme là je sais pas ce que c'est. Et ça nous a vraiment donné envie de faire un lexique.
Ouais. Ouais. Le livre a l'air effectivement très pédagogique. On commence par un sommaire, il y a immédiatement des pictogrammes qui sont ajoutés pour, j'imagine, favoriser les apprentissages et puis y entrer en douceur. Et puis il y a ces illustrations qui sont incroyables. Alors, Fanny, comment est-ce qu'on approche un sujet aussi a priori difficile, technique et, comme tu l'as dit, rébarbatif, avec une pointe d'humour et avec un dessin qui doit justement... a priori, de nouveau, aller à l'inverse de ça, aux antipodes de ça.
Mais en fait, le secret, c'est de commencer par un apéritif.
C'est bien.
On s'est dit, on va aller boire... À l'époque, on s'est vu pour bosser là-dessus, on était à Marseille, on s'est dit, on va aller boire un pastis. Puis on va essayer de trouver une idée pour faire un récit dans ce livre. Et puis voilà, puis on s'est dit que... quand même le plus simple pour faire vivre cette histoire, c'était d'avoir la personne qui apprend... à l'autre personne, en fait, comme ça se passe généralement. Et on a créé ces personnages du génie, qui, c'est un jeu de mots parce qu'il sort d'une bouteille, et c'est pas qu'il est absolument génial, c'est juste qu'il sort de cette bouteille et puis qui propose, qui a trois vœux à choix pour la fille qui trouve cette bouteille, qui espérait que ce soit un vieux vin des temps anciens, mais non, c'est un génie dans une bouteille qui va lui apprendre la programmation, mince. Voilà, donc c'est un peu en tripant comme ça entre nous sur... c'est aussi que moi j'avais dit à Sylvain, ok je fais ça, mais j'ai vraiment envie de m'amuser, j'ai pas envie que ce soit un projet que je traîne comme ça, j'ai envie que ce soit fun et puis qu'on se retrouve, qu'il y ait une bonne ambiance aussi dans la réalisation du truc, donc voilà, on s'est fait plaisir avec...
Ok, alors ça veut dire que... Parce que donc, les dessins prennent des fois, enfin sont des fois là juste pour illustrer un propos, et des fois ils prennent une place plus centrale où il y a une séquence.
Oui, alors voilà, il y a le double rôle des dessins qui est de rendre, de mettre en image des concepts abstraits pour les rendre plus facilement compréhensibles, et aussi le rôle du récit pour aider à avancer, pour faire des pauses. Donc chaque chapitre. Est ponctué de plein de dessins et il se finit aussi sur une petite scène en BD pour clore le truc. Ouais.
Et ce travail à quatre mains là, est-ce qu'il a été ardu de décider à quel moment est-ce que c'était mieux, quel dessin était mieux à quel moment, ou est-ce que c'est automatiquement finalement l'affinité entre vous a fait que non, là ça paraît évident que là un dessin est plus explicite qu'un long discours, enfin tout ça.
Il y avait en tout cas, quand j'ai écrit le texte, il y avait certains concepts que je savais qu'il fallait vraiment illustrer, c'était vraiment important. Ouais. Après, il y a aussi d'autres moments où j'écrivais du texte et je voyais que tout à coup, il y avait deux pages entières d'explications techniques qui pouvaient être vraiment super compliquées et puis et décourager la lectrice ou le lecteur. Du coup, on a essayé de mettre des petits dessins sympas dans ce genre de situation. Ouais.
Oui, puis bon, faut aussi dire que moi j'avais l'impression qu'il y aurait beaucoup plus de dessins par rapport au texte, mais à la fin t'as encore rajouté pas mal de textes, donc des fois j'ai l'impression qu'il manque des dessins, mais bon, on pouvait pas faire plus.
Mais y aurait-il, pourquoi pas, plus loin une extension plus BD du coup ? Ça pourrait être, pourquoi pas, une des suites possibles à ce projet ?
Oui, mais on s'était dit aussi qu'on pouvait faire des petits bonus accessibles sur le site avec des bouts de BD ou des trucs. Hein. Ça serait assez fun, mais bon, ça prend du temps.
Ben, ouais, parce que, bon, alors, effectivement, j'allais revenir à la bûche, mais peut-être que ces personnages pourraient sortir du livre d'une certaine manière, de ce livre-là, et puis avoir une forme d'autonomie qui pourrait, bien entendu, à chaque fois se référer à des choses comme ça, mais qui sait, peut-être existerait-il ailleurs, ces personnages. Mm-hmm. Pour le moment, en tout cas, c'est pas. Vous n'y avez pas pensé, je veux dire, il n'y a pas un petit truc qui vous habite ou bien. Je vous demande parce qu'il y aura peut-être un tome 2 ou quoi. Avez-vous des aspirations particulières maintenant que celui-là a été produit ?
Finissons déjà le premier.
Absolument. Alors justement, pour finir le premier, où en êtes-vous ? Est-ce qu'il va y avoir des présentations, des discussions dans des librairies ou dans d'autres lieux ? Est-ce que ça vous habite déjà ? Vous avez déjà une programmation concernant ce livre ? Ouais.
Non, en fait, on sort un peu de l'énorme boulot de finalisation, d'impression, et puis on commence tranquillement à le diffuser, à faire de la promo. Donc c'est un peu, ça va un peu dépendre de ces prochains mois. On avait aussi évoqué au début l'idée de faire des ateliers. Je grelotte un peu.
Ouais, mais non, mais c'est une horreur. On fait ça, il fait en dessous de zéro clairement. Donc courage.
Et puis, mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas. C'est vrai qu'on a été jusqu'à présent tellement concentrés sur le but qui était d'avoir l'objet papier pour pouvoir enfin le faire découvrir à d'autres. Donc, ouais. on est aussi curieux de voir comment il va être reçu, en fait, si ça va intéresser des gens, si vraiment ça va répondre à un besoin ou si on va se retrouver avec notre palette en cœur.
La palette de livres. C'était une question qui allait arriver, mais Sarah, on a une avant. Enfin, oui.
C'est tout bon. Voilà. Moi, j'avais une petite question. Oui. Moi, je me suis procuré le livre. C'est vrai que c'est un monde auquel je m'intéresse énormément. Il y a une chose que je reproche à tout ce qui est lié à Internet ou aux nouvelles technologies, en tout cas, c'est la rapidité avec laquelle ça change. Selon vous, on est en décembre 2018, le livre est paru il n'y a pas longtemps, combien de temps il est valable, ce bouquin ?
C'est drôle parce qu'on en a parlé à midi, parce que Sylvain il me disait « mais il faut qu'on se dépêche pour le diffuser et tout », puis je disais « c'est bon maintenant qu'on l'a », puis il disait « ouais mais tu te rends pas compte dans le web comme ça avance vite », puis je lui dis « mais on peut quand même au moins l'utiliser jusqu'à la fin 2019 », puis il a dit « ah oui quand même, okay. je sais pas si c'est plus ou… »
C'est vrai que c'est un truc qui est assez difficile dans les livres d'informatique en général, c'est assez
c'est
vite.
Reste à la page quoi.
Ouais, et parce que les logiciels changent très vite. Dans le livre, j'explique comment installer un éditeur de texte par exemple, mais l'éditeur de texte, l'interface de l'éditeur, elle peut changer très vite aussi. Et peut-être que les explications, elles seront plus valables demain, j'espère pas, mais ça devrait pas. Et sinon, au niveau des logiciels, HTML, CSS, ça bouge un peu, mais on parle vraiment des concepts de base. Donc ça, ils seront, je pense, toujours présents, en tout cas aussi longtemps que HTML et CSS existeront. Et après, pour ce qu'il y a après, Python et Django, ça peut bouger un peu plus vite, mais j'ai fait attention à me baser sur des versions qui sont maintenues pendant au moins 2 ans. Donc je pense que le livre, il sera valable au moins 3 ans.
Ah, cool.
Ce qui est en temps informatique, c'est une éternité.
Oui.
mais à part ça, c'est vrai que en ce qui concerne en tout cas le HTML, là je parle du profane qui connaît à peine les rudiments du code, c'est vrai qu'HTML, CSS, on peut s'y retrouver encore dans la longueur. Après, c'est sûr que lorsqu'on utilise comme à peu près tout le monde WordPress, il y a des petites choses qui s'ajoutent très très rapidement et qui sont.
Il y a même des technologies en fait qui bougent encore plus vite que ça. On a la chance, Python et Django, c'est deux technologies qui bougent encore relativement lentement. Mais il y a une autre technologie qui est très utilisée dans le domaine du web, c'est le JavaScript. Et ça a tendance à bouger encore plus vite. Et il y a même une blague qui tourne un petit peu chez les développeuses et développeurs, c'est de dire qu'un outil qu'on utilise en JavaScript aujourd'hui, il sera déprécié la semaine suivante. Donc c'est pour montrer à quel point ça bouge vite.
Là, on peut parler d'obsolescence programmée. Selon toi, c'est quelque chose qui fait partie justement du fait d'alimenter un commerce ou c'est vraiment parce que la technologie avance et que les choses avancent mécaniquement, d'elles-mêmes quasiment?
Je ne crois pas qu'il y ait un grand intérêt économique là derrière, d'autant plus qu'une bonne partie de ces outils sont open source. D'ailleurs, tous les outils qu'on présente dans le livre, ils sont open source aussi. On a
ça,
fait attention
bien
à ça.
Ouais.
Et pour le JavaScript, c'est plus, j'ai l'impression que c'est un monde qui est encore assez, assez jeune et les gens veulent sans cesse essayer de réinventer un peu des trucs pour essayer de faire mieux. Et c'est ça qui amène à une technologie qui bouge très vite, en fait.
Ok. Alors, justement, je voulais vous poser la question concernant les retours que ces livres auraient suscité. Mais vous n'en êtes pas encore là, ou bien vous n'en avez pas encore beaucoup recensé de ces retours, ou déjà vous avez eu des gens qui vous ont dit « Ah tiens, moi j'aurais bien voulu, mais ça j'ai pas. » Puis « Ah oh ouais, alors ça, en fait, il y avait, nickel, tout ça. »
Alors, pour l'instant, vu qu'on a à peine commencé à les distribuer, on n'a pas encore, de retours, mais on se réjouit.
Ouais, ça marche. À qui, potentiellement, à qui ce livre serait-il destiné, selon vous ? À tout le monde ? Très large public ? Ou bien il y a peut-être des niches vers lesquelles vous auriez également envie d'aller ? Typiquement, ben, voilà, on peut parler de populations un petit peu plus, a priori, délicates en termes d'informatique. Je pense aux aînés ou à des personnes comme ça. Il est fait vraiment pour tout le monde ?
Mon désir, en tout cas, c'était qu'il soit vraiment approchable par des personnes qui, a priori, ne seraient pas forcément intéressées à l'informatique. Ouais. Donc, c'est pour casser un peu cette image de l'informatique qu'on a comme un truc qui est assez aride, réservé aux hommes ingénieurs qui ont fait des hautes études. Donc, le but, en tout cas, dans la forme du livre, mais aussi dans les explications, c'est que ce soit vraiment approchable par tout le monde.
Très bien. Y a-t-il un avant et un après lecture de ce livre-là ? Je suis un profane, j'arrive, je vois un beau livre jaune qui est effectivement attractif, il faut le dire, en tout cas on peut dire autour de nous qu'il est attractif, les personnes opinent du chef autour de nous. Donc ça,
et puis il a une couverture brillante, c'est rare de nos jours.
Non mais il est attractif, c'est vrai, il donne envie de s'y plonger. Si je le lis, alors d'abord, est-ce que vous l'avez fabriqué pour qu'on le lise de manière linéaire ? Donc de A à Z ou pas. Si j'ai bien compris, pas complètement, parce que tu disais qu'il y avait des choses qui étaient mises en exergue pour si on voulait aller plus loin. Donc déjà, ça veut dire qu'on peut lire le livre d'une certaine manière en mettant de côté peut-être une technicité supérieure. Allez, je prends un exemple d'un livre qui est fantastique, 1984 de George Orwell, dont des chapitres plus techniques sont mis en arrière en disant « Lecteur, maintenant, soit tu continues dans la forme narrative du livre, soit tu t'arrêtes et puis tu vas aller chercher plus loin et du coup, tu peux aller derrière, voir qu'est-ce que c'est que le poum, les parties à l'époque, la guerre d'Espagne, tout ça. » Est-ce que vous l'avez fabriqué comme ça, de manière linéaire ou pas, ou différemment ?
Je pense que la suggestion de présentation, en tout cas du livre, c'est vraiment de le suivre du début à la fin pour justement suivre la réalisation de ce projet, enfin du site web. Après, s'il y a des personnes qui ont déjà des connaissances en HTML, CSS et qu'elles trouvent que les explications, par exemple, sont trop basiques et qu'elles veulent directement passer à Python et Django, elle peut aussi, parce que dans le livre, la personne crée un projet donc du début à la fin, mais il y a des points de contrôle en fait qui permettent de reprendre le projet à un point donné. Du coup, ça permettrait de commencer par exemple directement au chapitre Python si quelqu'un connaît déjà HTML et CSS.
J'ai compris.
Et puis aussi dans ton envie de faire des récapitulatifs à la fin de chaque chapitre et des tableaux, c'était qu'il y ait le plus possible la possibilité pour la personne qui a envie de revenir après vers le livre de rafraîchir ses connaissances ou de chercher une info dont tu n'es plus très sûr.
D'accord, donc la pédagogie vraiment est extrêmement pensée.
On a essayé en tout cas.
Ouais, bah c'est très bien, Sarah.
Oui, moi j'avais encore une question. Alors c'est vrai que rien qu'en regardant le sommaire, on a quand même une petite réponse à la question que je vais poser. Mais on trouve sur Internet des tutoriels sur HTML, CSS qui nous apprennent de manière un peu bête et méchante comment utiliser ces outils-là. Est-ce que vous, dans votre livre, il y a la volonté d'aller un peu plus loin et d'essayer de conscientiser le lecteur par rapport à ce que c'est que d'utiliser ce genre d'outils-là et quelle est l'implication sociale, économique, politique que ça peut avoir, ou est-ce que c'est vraiment un pur apprentissage sans qu'il y ait de réflexion derrière, ou vous êtes allé un peu plus loin ?
On a fait, dans le livre, il y a deux, on appelait ça quoi ? Des encadrés, c'est ça ?
Des hors-chapitres.
Des hors-chapitres. Il y en a un sur l'open source et un sur la diversité dans le monde de l'informatique. Donc c'était pour sensibiliser les lectrices et les lecteurs à ces deux, entre guillemets, problématiques qui sont liées au domaine de l'informatique. On n'a pas fait un troisième hors-chapitre sur, la responsabilité éthique et sociale des développeuses et des développeurs dans le web. Ce serait une possibilité. Mais pour l'instant, on s'est contenté de, en tout cas, ces deux hors-chapitres qu'on trouvait déjà importants.
Alors, je repose la question parce que vous avez répondu que partiellement. Y a-t-il un avant et un après ? C'est-à-dire que, est-ce qu'en avant, je suis un profane et en après, je suis un génie ? Une fois que j'ai lu le livre, qu'est-ce qui se passe pour moi ? J'arrive à quoi ? Qu'est-ce que je sais faire ?
Ben, déjà, tu sauras si, si tu as envie de programmer, je pense.
Ok.
Et ça, c'est déjà pour. Enfin, je pense que c'est important de voir si c'est quelque chose qui nous plaît.
Ouais.
Si c'est une voie dans laquelle, par exemple, on veut se diriger. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis surtout, on a un résultat concret, en fait. C'est qu'on a un site web qu'on peut utiliser, qu'on peut partager avec nos amis. Et qu'on peut après faire encore évoluer en poursuivant son apprentissage dans la programmation.
Mmh. Oui, puis il faut préciser que ce n'est pas juste un site web, c'est un quiz. Donc on apprend vraiment à faire un site dynamique avec, que des gens peuvent utiliser.
Absolument.
Un quiz sur les poissons.
Exactement. Sylvain Frankenzer, Fanny Vaucher, je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous, d'avoir pris du temps. Il y a encore une question ? Oui, t'inquiète pas, on a encore un petit moment. J'annonce l'atterrissage, c'est pour ça que je fais comme ça. On arrive au bout, effectivement, de cet entretien. Pour aujourd'hui, on aurait beaucoup de questions à vous poser. Là, on a un petit temps limite aujourd'hui, parce que voilà, on a été un petit peu défectueux. Mais on reviendra là-dessus et on aimerait bien vous réinviter pour certaines petites choses dont Sarah est d'ailleurs friande également. Donc on reviendra... quoi qu'il en soit vers vous. Je voulais d'ores et déjà vous remercier pour votre disponibilité, pour les réponses que vous avez apportées. Et on y va avec la prochaine question.
Oui, je voulais savoir si vous connaissiez les gens ou vous connaissez le bouquin qui s'appelle « Le guide d'autodéfense numérique ». Ça vous parle ?
Oui.
Ouais.
Bouquin génialissime aussi. Et eux, quasiment à chaque début de chapitre, ils disent voilà, les technologies avancent très vite, référez-vous à notre version web qui est réactualisée. Je sais que vous avez aussi la possibilité et que nous, on se le procure en version web ou en version papier, évidemment. Est-ce qu'il va y avoir un suivi sur cette version web ? Est-ce qu'elle va être réactualisée ? Est-ce qu'elle va être mise à jour ? Et sur quelle durée ? Parce que ça va demander une sacrée dose d'implication en termes de temps aussi, que de réactualiser la version numérique du bouquin. Et est-ce que vous avez prévu de le faire et sur quelle durée de temps, si vous avez prévu de le faire ?
Alors je peux déjà te dire que oui, on a prévu de le faire. Il y a déjà, pour certains chapitres, étant donné la complexité de l'informatique et puis le nombre de configurations possibles sur son ordinateur, il y a certains chapitres où il y a des installations de logiciels, par exemple, qui peuvent ne pas fonctionner. Et du coup, là, dans le livre, on dit, si ça ne fonctionne pas, va sur cette adresse-là et regarde, essaye de suivre les indications qui sont données. Et on essaye de donner plus d'indications. Donc il y a déjà cette volonté de faire cette possibilité en tout cas de faire sur le site des articles qui permettent de corriger des problèmes qu'il y aurait avec la configuration de certains logiciels. Et potentiellement, ben, ces articles pourraient être utilisés pour dire à partir de telle version, ça fonctionne plus comme ça, mais ça fonctionne comme ça. C'est prévu. Je ne peux pas donner une durée exacte pendant laquelle on va le faire, mais en tout cas, on va essayer de le faire au maximum, basé aussi sur les retours qu'on va recevoir des gens.
Oui, en fait, on invite les gens à pas hésiter à nous contacter s'il y a des points concrets, de problèmes ou autres. C'est vraiment bienvenu.
Les questions de fin, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on vous contacte ? Comment est-ce qu'on vous fait des retours ? Site internet, y a-t-il une adresse de contact ?
Alors, sur le site internet, il y a effectivement dans le pied de page une adresse de contact. C'est info@genieducode.com.
Génie au pluriel, génie-s-ducode.com. Mm-hmm.
Oui. Et sinon, ben, on est aussi plus ou moins présent sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est plus pour la promo.
Ah, mais c'est bien aussi. Donc sur Facebook, par exemple, Génie du Code, on trouve également. Donc Génie du Code au pluriel. D'ailleurs, c'est le titre du livre, Génie du Code, apprendre à programmer en créant un site web avec Python et Django. Ça, c'est le livre en auto-édition par les deux auteurs, donc Fanny Vaucher et Sylvain. Je veux pas mal prononcer, mais je l'ai dit. Frank Hauser. Deux petites dernières questions vite fait pour vous. GAFAM, c'est Satan. Framasoft, c'est le paradis ?
Ben ouais, enfin Framasoft, je trouve vraiment, vraiment super ce qu'ils font. Cette approche de ce qu'ils appellent dégoogliser Internet, ouais, et puis de faire la promotion de l'open source, pour moi, c'est vraiment hyper important. Et c'est pour ça qu'on parle quand même pas mal de l'open source dans le livre, parce que je pense que c'est important que les gens soient conscients aussi des problématiques liées au logiciel propriétaire.
Ouais. Un site ou deux que vous conseillerez aux gens qui nous écoutent ? Est-ce qu'il y en aurait comme ça ? Est-ce qu'il y a des petites perles comme ça qui, à part évidemment génieducode.ch ? À part génieducode.com, y a-t-il voilà, un ou deux sites comme ça que vous auriez envie de livrer en pâture des gens qui nous écoutent ? sur n'importe quel sujet d'ailleurs, un truc en vous disant « Ah tiens, ça c'est visuellement il est intéressant, pédagogiquement il est bien, et puis il y a un contenu qu'il faut absolument que l'on découvre. » Je temporise, hein, vous avez vu.
Ça nous prend au dépourvu.
Ben si on n'a pas, il n'y en a pas, on coupera.
Alors lié à la programmation, j'en ai pas directement, mais je peux vraiment recommander, comme on a mentionné avant, le guide d'autodéfense numérique qui est vraiment très bien fait. Je pense que tout le monde devrait le lire pour être conscient de ça. Et le site de Framasoft aussi qui explique aussi ce que c'est l'open source et pourquoi c'est important de se battre pour ça.
Et puis si je peux me permettre de co-répondre avec Fanny, bien sûr que le site de la bûche est d'un intérêt tout particulier, pourrait-on dire.
Oui, et puis le site des paupières des poissons,
mais
un
nom
blog,
de bleu.
Un site incroyable sur les animaux aquatiques,
sur lequel
une
on
perle.
Absolument, et on reviendra radiophoniquement là-dessus, j'espère.
Volontiers.
Très bien, très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps dans ce froid vraiment glacial ici à la menuiserie de l'île aux 13. On se retrouve bientôt et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci. Tiens. Voilà, on se fait une petite pause musicale et on vient juste derrière avec la dernière partie de cette émission. Nous allons parler de Share Up, une association qui SM ici dans le quartier des Grottes à Genève.